Rebecca, tu reçois maintenant Fernand Nadjar pour revenir sur le 8 mai 1945 en Algérie.
Bonjour Fernand.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes président de l'association de jumelage Rennes-Sétif, donc Sétif qui est une ville au nord de l'Algérie. Comment est née l'idée de ce jumelage un peu pour remonter dans le temps ?
Voilà, ben écoutez, ben oui, je suis président de l'association depuis 7 ans maintenant. Moi-même, je suis né en Algérie, donc à Constantine, donc justement dans la région de Sétif. Et ce jumelage est né d'une amitié entre le maire Edmond Hervé, qui était maire en 1977 à Rennes, et qui en 82 a rencontré M. Kerat, qui était aussi donc assistant juridique à la fac de droit, comme M. Edmond Hervé. Et à partir de là, quand ils se sont retrouvés avec des responsabilités, ils ont décidé de faire ce jumelage. Donc jumelage qui est donc qui a été concrétisé en 82, donc qui fête ses 40 ans cette année.
Voilà. Et on verra tout de suite que ça s'accompagne d'événements. On y reviendra à la fin. Que partagent ces deux villes aussi, Rennes et Sétif ?
Alors sincèrement, actuellement, c'est très difficile. Autant dans les années avant les années noires de 1999 en Algérie, il y avait beaucoup d'échanges de familles essentiellement entre Sétif et Rennes. Les gens de Rennes allaient à Sétif étaient accueillis dans des villes, à Sétif, chez des habitants. Ensuite, il y a eu ces années noires de 1999 à 2000. Il y a eu un total arrêt des échanges entre donc l'Algérie et la France. Ensuite, à partir des années 2000, il y a eu à nouveau des échanges qui étaient ponctuels. Et puis finalement, depuis que je suis président, depuis 2015 maintenant, on avait mis en place des voyages en Algérie, puisque malheureusement ce pays ne profite pas de la publicité des voyageurs, des voyagistes. Puisque les voyagistes ont mis en place des voyages en Algérie que depuis 2 ans, là, depuis 2020. Et nous, on avait l'avantage de profiter de cette possibilité d'être sur place pour pouvoir avoir des circuits de voyageurs. Et on a fait des voyages entre 2015 et 2019. Et donc ces voyages ont été arrêtés aussi malheureusement à cause de la Covid. Et donc depuis 2 ans on ne fait plus de voyages, mais on espère bien en faire l'année prochaine.
Quoi. Ouais. Et justement vous venez de parler d'échanges d'habitants, de voyages qui étaient organisés. Au-delà de ça, de manière plus générale, cette association donc, de jumelage participe aussi à la diffusion de la culture algérienne à Rennes.
Voilà, c'est surtout cet objectif-là qu'on a, puisque pour l'instant c'est notre principal centre d'intérêt, si je peux dire, et d'objectif, du fait justement des difficultés qu'on a d'échange avec l'Algérie. On avait réussi à faire venir des collectionneurs de timbres, par exemple, des collectionneurs de cartes postales, une archéologue. Et on fait venir des Algériens dans la mesure où ils peuvent obtenir des visas. Mais on a toujours cette difficulté qu'au dernier moment, ils n'auront pas leur visa. Et malheureusement, c'est compliqué. Alors, pour pallier à cette difficulté d'échange entre la France et l'Algérie, l'association de jumelage Rennes-Sétif, depuis 4 ans maintenant, développe les connaissances, veut montrer aux Rennais notamment que l'Algérie c'est un beau pays, vaste pays, donc avec une culture très variée. Et on continue dans cette voie pour échanger. Donc on fait une conférence mensuelle à la Maison internationale de Rennes, pendant laquelle on a environ toujours entre 40 et 50 personnes qui découvrent tous les aspects de l'Algérie, aussi bien les arts, la musique, la politique, l'histoire. Voilà. Donc c'est pour l'instant c'est ça. Maintenant, quand les frontières seront encore à nouveau plus favorables, l'ouverture des frontières plus favorable, on espère pouvoir reprendre nos échanges directs avec les Algériens.
Alors, il y a 2 jours, la France commémorait donc la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais le 8 mai 1945, c'est aussi un souvenir douloureux en Algérie, celui des massacres de Sétif, Guelma et Kerata. L'Algérie, à un moment en 1945, où elle est encore une colonie française. Est-ce qu'on peut détailler un peu le contexte, justement, du 8 mai 1945, à ce moment-là, en Algérie ?
Voilà, c'est-à-dire que le 8 mai 1945, en fait, c'est une, normalement, c'est la fête, c'est la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Algériens, à l'époque, étaient dans une situation difficile au niveau alimentaire, essentiellement, parce que justement, la plupart des hommes étaient partis au combat et les terres avaient été, ne pouvaient pas être cultivées. Donc, il y avait déjà une crise alimentaire importante. Et parallèlement à ça, il y avait également une volonté des soldats qui revenaient de la guerre, d'obtenir une reconnaissance de leur bravoure, puisqu'ils ont pratiquement participé à la conquête, à la reconquête de l'Italie et jusqu'au sud de la France. Donc à partir du moment quand ils sont revenus en Algérie, on pensait que qu'ils obtiendraient une égalité de leurs droits civils, surtout puisque avant 1945, il y avait donc une inégalité entre les Européens et les Juifs qui vivaient en Algérie, qui avaient l'ancienneté française, et les indigènes, comme on les appelait, qui étaient considérés donc comme des sous-citoyens.
Et qui vivaient aussi dans une plus grande pauvreté.
Pauvreté, voilà, surtout dans... Alors, moi, je vivais à Constantine, donc je n'ai pas connu vraiment la pauvreté des campagnes, mais maintenant que je vois des films de l'époque, c'était vraiment horrible, quoi. C'est vraiment... C'était la misère. Et à partir de 8 mai 45, le gouvernement français et les préfets, sous-préfets, s'attendaient un petit peu à une rébellion durant cette journée de festivité et avait interdit absolument des slogans anti-français,
les
drapeaux algériens, voilà. Donc c'était un peu à partir de là où est parti l'événement. Et puis donc à Sétif, plus particulièrement, un jeune scout algérien a brandi un drapeau
algérien, justement.
Algérien, voilà. Et ce jeune scout a été abattu par un policier. Celui qui a suivi les ordres en fait de sa hiérarchie. Et à partir de là, il y a eu un affolement général dans la foule. Les musulmans qui étaient censés ne pas avoir d'armes se sont projetés contre la population européenne qui était dans la manifestation. Ensuite, les Français, la police française a commencé à tirer sur les musulmans. Et de là, il y a eu des massacres. Alors, on dit 110 Européens. Et puis, la révolte s'est propagée à Guelma.
Bien au-delà de Sétif.
Voilà, qui est au nord de Sétif. Et puis à Kerata, qui est un peu plus à l'est, quoi. Et finalement, par répression à cette révolte, l'armée française a commencé par bombarder les villages par avion, avec des bateaux. Et donc ça fait, on ne sait pas combien de morts, entre 15 000 et 45 000 selon
C'est vrai que le bilan est beaucoup plus lourd.
On ne sait pas parce que sur place, il y a eu des charniers qui ont été créés. Il y a eu des personnes qui ont été brûlées, enterrées. Donc c'était vraiment un massacre horrible pendant une quinzaine de jours. Et il a fallu que l'armée française arrête ses révoltes, mais c'est vrai que ça a été une tragique pour les Algériens de l'époque.
Oui, avec vraiment une grosse disproportion. Hein. 100 Européens, on l'a dit, tué pour 45 000, à l'arrivée voilà, 45 000 Algériens.
Parce que forcément, la population algérienne n'avait pas de canons, d'avions pour contrer les Européens.
Alors la guerre d'Algérie commence officiellement avec la Toussaint Rouge le 1er novembre 54 et donc s'achèvera avec la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962. Est-ce qu'on peut qualifier justement ce massacre du 8 mai 45, donc 10 ans avant le début officiel de la guerre d'Algérie, comme un premier acte?
C'est ce que disent les historiens maintenant à notre époque. Peut-être qu'à l'époque, on ne se rendait pas compte de ce que ça allait devenir. En fait, au départ, on était parti pour une simple volonté d'égalité des droits entre les citoyens algériens et les Français. Et progressivement, plusieurs soldats en fait, de l'armée française se sont rendus compte qu'ils n'auront pas l'égalité des droits entre la population européenne et les indigènes, ils ont commencé à se rendre compte que ce n'est pas par la négociation qu'ils obtiendront l'indépendance de l'Algérie.
Mais par les armes.
Donc il fallait passer par les armes. Et donc la plupart beaucoup de soldats français qui étaient dans l'armée française ont été dans le maquis. Et on commençait à monter des troupes de maquisards, on commençait à s'armer, notamment soutenus en partie par les Égyptiens, puisqu'on était à l'époque 56, bon, il y avait des conflits avec l'Égypte, la Grande-Bretagne, la France, et ça, avec le soutien des Égyptiens, ils ont eu des armes, et donc et progressivement, ils ont décidé de déclarer, eux, ils disent la guerre à la France, donc par ces attentats du 1er novembre 54. Mais en fait, les Français, eux, ont considéré que c'était une simple révolte et qui pouvait être arrêtée rapidement par l'envoi de militaires pour ce qu'ils ont appelé la pacification. Et en fait, de pacification, c'est arrivé à une véritable guerre, mais qui n'avait pas été reconnue tout de suite par le gouvernement français.
Et votre association, depuis plusieurs années déjà, organisait donc ce dimanche, le 8 mai, une commémoration de ces massacres à Rennes. Comment cet événement est commémoré aussi de l'autre côté de la Méditerranée, à Sétif ?
Disons que à Sétif, on a la même démarche, c'est-à-dire qu'il y a une commémoration devant la stèle du soldat, du jeune scout, là, qui se trouve donc au centre de Sétif. Et il se trouve que cette année, là, donc, le temps passe vite, en 2020, le président Aboun a décidé de déclarer le 8 mai comme une journée, la journée nationale de la mémoire. Donc du côté de Sétif, il y a une de l'Algérie d'ailleurs, il y a une reconnaissance de cette journée comme étant une journée très importante pour l'histoire de l'Algérie. Bon, voilà. Et en France, il y a quelques villes qui commémorent l'événement. Donc Sétif, l'association de Sétif, de Rennes-Sétif, c'est considéré comme un devoir de fête, cette commémoration, du fait que nous, on a donc à Rennes un square de Sétif. Et que, ça nous paraît tout à fait normal de faire cette commémoration avec des représentants de la ville de Rennes, des représentants du conseil départemental, et puis plusieurs associations d'anciens combattants. Notamment, on est soutenu par l'ARAC 35, qui fait un gros travail sur cette commémoration.
Et dernièrement, le président Emmanuel Macron, donc l'année dernière, a reconnu officiellement aussi un autre massacre, le massacre du 17 octobre 1961, donc où plusieurs, lors d'une manifestation de militants du FLN, plusieurs Algériens ont été arrêtés, tués, jetés dans la Seine, noyés. Est-ce que ça marque le début d'un cycle de reconnaissance des crimes commis par la France?
Globalement, il y a une tendance à une reconnaissance de tous les événements qui se sont passés en Algérie, puisque déjà le 8 mai 45 n'a été reconnu qu'en 2015. Donc là, on est dans une reconnaissance des événements du 7 octobre 61. Et il y a des associations comme l'ARAC 35 notamment, qui veulent arriver à un traité de paix entre la France et l'Algérie. Parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de traité de paix. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à faire ces échanges entre la France et l'Algérie. Pour le 17 octobre 61, la particularité de Rennes, c'est qu'on fête, on commémore, je ne dis pas le mot fête, parce que ce n'est pas une fête, une commémoration, tous les 17 octobre, à la passerelle des jumelages. Et sur une proposition de Madame Flavie Boukenoufa, notre nouvelle correspondante à la mairie de Rennes, il est prévu de faire une plaque commémorative à Rennes sur ce 17 octobre 61, qu'il faut bien différencier des événements de Charonne, qui se sont déroulés en février 62. Parce que beaucoup de gens confondent les deux événements.
Le
17 octobre 61, c'est bien des Algériens qui ont été tués par la police de M. Papon. Alors qu'en 62, c'est des communistes qui ont été tués par les officiers, la police française.
Peut-être un dernier point sur le prochain événement organisé par l'association de jumelage Rennes-Sétif avant de se quitter.
Voilà, comme je vous disais, on fait une conférence tous les mois. La prochaine, ça sera sur les relations entre les îles d'Algérie et de France le 31 mai. Et puis essentiellement, on va faire la publicité, c'est la semaine algérienne qui nous a été demandée par la ville de Rennes pour commémorer, les 60e anniversaire de l'Algérie indépendante.
D'accord. Et qui aura lieu quand, cette semaine algérienne ?
Donc, la semaine algérienne aura lieu du 14 au 19 juin. De cette année 2022. Elle sera composée d'une exposition de photos de l'Algérie à la Maison internationale de Rennes pendant toute la semaine, de trois conférences, une conférence sur l'histoire de l'Algérie au travers de la monnaie, une conférence sur la bande dessinée en Algérie, et une conférence sur la peinture contemporaine en Algérie.
D'accord.
Et les deux moments forts seront essentiellement le concert arabo-andalou qui aura lieu le 18 juin à la salle de la Cité à 20h30. Donc tarif 12 €, voilà, et 8 € et 5 € pardon pour les étudiants.
Dans tous les cas, tout le reste sera retrouvé sur voilà, votre site internet.
Et autrement, pour terminer, donc un film à l'Arvor, le dimanche.
D'accord.
Alors tout cela peut se trouver sur la page Facebook
de l'association du Mélange Réceptif. Eh bien, voilà. Merci beaucoup à vous, Fernand Edjard, d'avoir accepté notre invitation. Voilà.